Radio Libertaire. Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo. Un petit, pour les auditeurs, hein, ce matin, il y a quelques petits réglages. Et donc, vous savez, pour les platines, alors, quelquefois, certaines souffrent un petit peu de la chaleur. Ou alors, elles se mettent en grève, hein, ça peut arriver aussi, puisque aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a évoqué donc ce qui se passait à la SNCF, ce qui s'est passé avec les taxis, si ça continue aussi, et puis aussi avec les intermittents et d'autres conflits dont on ne parle pas, hein, dans les médias, puisque vous savez que ça va être la grande messe du football. Alors pour certains évidemment, avec tout ce que ça comporte. D'idéologie derrière, hein, pour masquer, essayer de masquer tout le reste. Et vous le savez, ça a déjà commencé au Brésil, hein, puisque les conflits au Brésil aussi, on ne sait pas très bien comment ça va se passer les premiers jours, hein, puisque quand même la moitié de la population brésilienne, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une première, hein, ne soutenait pas apparemment les joueurs de ballon rond. Voilà, alors je vous avais dit au début de cette émission tout à l'heure, vous savez, Chronique Hebdo, commentaire de l'actualité, qu'à partir de 11h, eh bien, on recevrait Anne van der Linden pour une exposition. Alors, exposition qui a lieu, le début de cette exposition, c'est aujourd'hui, hein, jeudi 12 juin, il faut le rappeler. Le vernissage, eh bien, aura lieu aujourd'hui, hein, cet après-midi, on va en parler tout à l'heure, et cette exposition durera 10 jours, hein, du 12 juin au 22 juin. Alors, où elle se trouvera? Eh bien, à Ivry-sur-Seine. Ivry-sur-Seine, vous le connaissez, Ivry-sur-Seine, on en parle relativement souvent sur cette antenne avec le fameux forum Léo Ferré, et puis aussi, vous le savez aussi, des émissions avec le groupe d'Ivry de la Fédération anarchiste, hein, que vous connaissez pour l'émission lundi matin. Donc l'exposition aura lieu 111, c'est Villa 111, rue Molière, à Ivry-sur-Seine, et cette exposition s'appellera Jean Banlaire, avec deux artistes, Anne van der Linden, qui est dans le studio ce matin de Radio Libertaire, et Jean Attali. Voilà, alors Anne van der Linden, tout à l'heure on l'a évoqué, a participé, déjà venu dans une émission de Radio Libertaire, c'était au mois de février, et puis dans une émission que vous connaissez qui a lieu l'après-midi, c'est-à-dire le vendredi après-midi, les oreilles libres, et donc sûrement dans cette émission, Anne van der Linden avait parlé de son travail, je ne sais pas de cette exposition. Alors on va plus particulièrement aborder cette exposition. Aussi, je vous l'avais dit, vous connaissez sûrement, si vous êtes des auditeurs de Radio Libertaire, Anne van der Linden, pour des expositions qui ont eu lieu plus particulièrement à Publico, hein, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est la librairie du Monde Libertaire, donc c'est 145 rue Amelot, Paris 11e, donc la librairie Publico, et puis aussi des ouvrages, hein, et puis un ouvrage, enfin il y avait eu un ouvrage, il me semble bien, Anne van der Linden, tu vas me le dire, Anne, oui. Qui était illustré, qui s'appelait Art et Anarchie, je crois, et qui, oui. Et dont tu as fait la couverture.
Oui, tout à fait, oui.
Oui. Alors, là aussi, donc, cette couverture, il y a eu plusieurs, ouvrages Art et Anarchie, c'était
plusieurs
peut-être
numéros,
oui, c'est ça.
André Robert qui s'occupait de cette édition.
Voilà.
Et donc j'avais fait la couverture du numéro 1, je crois que c'était le numéro 1.
Oui.
Et j'avais aussi fait la couverture de sa revue Anartiste avec un article complet dans la revue, donc c'était intéressant.
Alors là on va dire aussi, puisque tu as fréquenté des lieux comme la librairie Publico, on parlait de ça tout à l'heure, et puis aussi le salon du livre libertaire qui a eu lieu il y a 3 semaines.
Oui, hein? J'étais là-bas, j'avais un stand Freakwave, c'est-à-dire Freakwave, c'est une revue dont je m'occupe avec l'artiste Olivier Allemann, qui est une revue d'art et de poésie. Et donc c'était la deuxième fois que je participais au salon, donc c'est tous les 2 ans, hein. Et en présentant la revue, entre autres, et puis mes propres petites éditions et celle d'Olivier Allemann, voilà. C'est...
Alors, justement, puisque tu as plusieurs publications, alors je vois, donc j'ai vu, j'ai regardé un petit peu, tu sais, c'est la fiche Wikipédia qu'on le regarde quelquefois, mais enfin, il y a des choses intéressantes. J'ai dit, c'est aussi pour des personnes d'aller quelquefois regarder ce qui est dit, hein, puisque là aussi, il y a des possibilités, tu vas me le dire, hein, de quelquefois de rectifier s'il y a des erreurs.
On peut rajouter, ouais, etc. Mais oui. Enfin, il y a quand même un gros contrôle. Il y a des robots qui contrôlent un peu ce qu'on dit, s'il n'y a pas des publicités.
Alors justement,
publicités, ou s'il
qu'est-ce
y a pas
que tu en penses
si tu, ouais, ça peut être très violent. Hein, ça m'est déjà arrivé d'avoir des images supprimées. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Leur logique m'échappe un peu. Ils ont aussi fait un écrémage récemment sur des critères que si l'artiste en question ou la personne en question n'avait pas eu assez d'événements, n'était pas assez public. Enfin bon, ils ont des critères particuliers. Donc c'est pas si ouvert que ça. C'est très très contrôlé quand même.
Ouais. Oui, alors là, je voulais te dire pour ce qui est de cette exposition, donc plus particulièrement puisque tu es là aujourd'hui, donc le vernissage, c'est cet après-midi.
Oui.
Là aussi, il y a un autre artiste, Jean Attali. Et alors là, pour l'ensemble de tes œuvres, alors je voyais le carton que tu as apporté.
Oui.
Là, on peut le dire aussi pour des personnes qui passeront par le studio de Radio Libertaire, vous aurez la possibilité, eh bien, d'avoir ce carton d'invitation, et puis ce carton aussi qui signale et qui informe sur l'exposition, je le rappelle, de cet après-midi, hein, qui va avoir lieu pour 10 jours, donc du 12 au 22 juin 2014, 111 rue Molière à Ivry-sur-Seine. Alors, pour ça, tout de suite, combien de toiles? Et en particulier, ce travail que tu as, ces toiles que tu exposes, sont des toiles récentes ou des toiles qui ont déjà quelques années ?
Y a les deux. Y a une salle où seront exposées mes dernières productions. Et dans le hall de l'espace seront exposées des toiles plus anciennes. C'est un énorme lieu, assez compartimenté. Donc ça nous a permis de faire des ambiances différentes d'un espace à l'autre. Il y aura un cabinet de curiosité avec des dessins, des plus petits formats. Et un espace plus de production récente. Et puis dans le hall, comme j'ai dit... toutes ces toiles anciennes. Et pour Jean Attali, c'est un peu... Je crois que c'est plus mélangé, en fait, dans les époques. Voilà. Mais c'est une sorte de confrontation. On est en vis-à-vis, en permanence. Les toiles jouent les unes avec les autres. Voilà. On n'a pas fait bande à part, chacun dans sa salle. C'est un mix.
Oui, alors, le thème, puisque j'évoquais tout à l'heure le titre de l'exposition, est-ce que tu peux en parler un peu, puisqu'il s'appelle... Jambes en l'air.
Hein? C'est complètement idiot. En fait, on n'arrivait pas à trouver un titre. Donc, on s'est référé au visuel du carton. Et en fait, comme sur le visuel du carton, on voit un type jambes en l'air en train de se faire tripoter par deux femmes. Voilà, on s'est dit, on va appeler ça jambes en l'air. Voilà. Et comme, en fait, mes toiles ont un côté un peu gymnaste. Et puis, celle de Jean, il y a un aspect aussi comme ça. Ça collait pas mal. Voilà. Sans prétention. Les titres, c'est toujours quelque chose d'assez difficile à trouver, et puis autant les trouver dans la spontanéité que... Voilà.
Alors, pour, si tu veux, pour des auditeurs, enfin, qui te connaîtraient pas, ou qui n'auraient pas été à Publico, ou qui n'auraient pas eu la curiosité, puisque tu es passé sur cette antenne ou dans d'autres lieux, d'aller regarder, hein, aussi, puisque c'est quand même une particularité nouvelle, d'aller voir sur Internet, puisque maintenant, aussi, ça fait quelques années, hein, mais c'était une chose qui ne pouvait pas se faire et se faire.
C'est tout très vite maintenant.
Oui, hein, là aussi, une autre façon, un autre aperçu, avec... c'est à la fois bien et pas bien, puisqu'on peut dire, bon, la curiosité pour d'autres expositions, mais ça aussi, pour les curieux, ou les gens qui ont un intérêt, ou les gens qui font des recherches, eh bien, déjà, d'aller voir, hein, puisque pour la peinture, en particulier, c'est quand même le plus facile d'aller regarder, le regard, la vue de ton travail.
Même si les visuels sont un peu appauvris, mais bon, ça donne une idée, quoi.
C'est ça, c'est un élément. Alors, là aussi, je rappelais, puisque que je te l'avais dit, on avait fait une émission dans Chronique Hebdo autour de Clovis Trouille.
Oui. Hein,
je te l'avais dit. Alors là, ça remonte à peu près à 4 ans. Il y avait une exposition Clovis Trouille qui s'était déplacé. Dans un premier temps, c'était
à
Lille-Adam, hein, c'est ça ?
Au musée Louis-Saint-Lac.
Exact. Oui, voilà. Là, alors après, elle s'était déplacée pour dire l'intérêt de cette exposition à Charleville-Mézières,
oui.
Hein,
oui.
Pour rappeler.
Un musée aussi qui s'appelle, je ne sais plus comment.
Pour Arthur Rimbaud, hein, rappelé
oui.
Pour là-bas. Et puis après, la troisième partie. Troisième tempo, enfin temps de cette exposition, c'était au musée d'art naïf de Laval.
Oui, là, j'ai pas été invitée. Il y avait eu des problèmes avec la municipalité, des problèmes d'espace aussi. Ça a été un peu chahuté à Laval. Mais en tout cas, j'étais pas. C'était en fait, ils avaient uniquement, je crois, exposé Clovis Trouille et ses contemporains.
Ah oui.
Et Courme.
Oui. C'est ça, Courme. Oui.
Gérard Latier.
Oui.
Enfin, d'ailleurs, des excellents peintres que j'ai découverts à l'occasion et dont on s'étonne qu'ils circulent aussi peu dans les dans les institutions parce que c'est vraiment extraordinaire.
Ah oui, c'est
quoi.
Un travail, c'est remarquable, hein, c'est ça.
Fait, oui.
Alors là, pour te dire, alors toi, où tu étais présente, donc de celle de l'Isle-Adam.
Oui. Et à là, Charleville aussi.
Et à Charleville-Mézières. Et alors là aussi, il y avait eu un ouvrage hein, autour de cette exposition qui notre ami Henri Lambert.
Oui.
Je dis notre ami parce qu'il est venu plusieurs fois. Hein, je te l'ai dit dans cette émission. On l'avait évoqué autour de Clovis Trouille. Enfin, il y avait aussi Clovis Prévost, qui s'est occupé, qui a fait des textes. Et puis Marshall. J'ai plus son nom en tête, qui était venu
Francis
aussi.
Marshall.
Francis, voilà, ouais. Francis Marshall, avec Morissette.
Oui.
Il n'était pas venu. Et alors, pour ça, pourquoi je dis ça? Puisque, on rattachait, enfin, c'est toujours difficile, hein, l'apparentement, parenté, est-ce qu'on la souhaite ou pas, avec Clovis Trouille, en parlant d'artistes trouillesques, je ne sais pas, hein, là
oui,
aussi, pour
l'idée
pour l'association, enfin, et puis les autour une filiation, est-ce que aussi le terme, je ne sais pas, autour de Clovis Trouille, hein, là, il voudrait ou ne voudrait pas, alors rappeler
que... Oui, trouver un fond commun
oui.
Entre l'œuvre de Clovis
exactement, hein, donc des analogies,
oui.
Hein, c'est ça aussi,
ou
des éléments
qui
peuvent être différents, mais enfin bon, pour alors rappeler que pour ce, je me souviens de l'ouvrage, on évoquait le catalogue exactement, le grand maître du tout est permis pour Clovis Trouille, c'était André Breton qui l'avait appelé comme ça.
Mmh.
Alors tout est permis, alors là aussi, je dirais que pour ton œuvre, par rapport à ce qui est permis et ce qui est autorisé, donc tout est permis. Et je voulais lire quelques lignes de présentation. Enfin, je trouvais ça qu'avait signé Henri Lambert. Alors, il dit parmi les enfants terribles, hein, les enfants terribles, c'est pas Cocteau, mais de Clovis Trouille, Anne van der Linden. Affronte sans dérobade notre époque, explore l'humain à travers les fantasmes, alors, de sa sexualité. Pour Clovis Trouille, comme, là un peu, justement, pour situer un petit peu des différences, qui disait, comme Anne van der Linden, la nudité, c'est la mise en orbite, la mise à nu des rapports avec l'autre. L'autre, ce partenaire de jeu dont ils sont à la fois maître et voyeur, parce que rappelez que l'exposition s'appelait
Voyeur, voyou, voyant.
Hein, c'est ça, exactement. Mais si chez lui, Clovis Trouille, l'érotisme est jubilatoire, solaire et gagnant, chez Anne van der Linden, ce qu'il dit, hein, Henri Lambert, est dérangeant et renvoie à la perte. Il avait dit ça, hein.
Oui,
Eros et Thanatos, main dans la main.
Oui.
Toujours est-il qu'Eros apparaît dans la peinture d'Anne van der Linden comme une contingence inéluctable de l'existence, programmé, ritualisé comme un office, un sacrifice, une passion nécessaire, sans plus de littérature que s'il s'agissait du banal écoulement de nos humeurs quotidiennes. Alors, je pense là aussi le rapprochement, et là, tu m'as, ça c'est, on verra ça dans l'exposition, l'exposition par rapport à deux petits courts-métrages que tu as réalisés, alors on en parlait en 1999 et 2000,
oui.
Dont un qui s'appelle la...
Le repassage. La citerne. Ce sont des titres de toiles.
Oui.
Je me suis inspirée des thèmes des toiles et je les ai développés dans des petites fictions réalisées à la maison avec des amis. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de très sommaire au niveau des moyens employés,
oui.
Assez court et assez. En fait, ça donne une version. C'est plus brutal finalement que l'étoile, à mon avis.
Alors oui, alors justement je voulais peut-être essayer de rapprocher une que tu as fait, une toile que tu as réalisée qui s'appelle l'épilation.
Oui.
Alors là aussi, pour un petit peu expliquer pourquoi l'épilation et que toi, on voit...
L'épilation totale, ça
totale,
s'appelle.
Le corps. Et tu vas, alors justement, pour cet élément, ce souci imposé, qui est peut-être par le système, enfin, aux femmes de s'épiler,
oui.
Et que là, l'épilation totale, tu veux régler la question et le problème.
Par un dépeçage, en fait.
Par un dépeçage définitif.
Oui, oui,
Et que les poils ne repoussent plus.
Donc, du coup, ça fait un écorché, en fait. Oui. Mais dans la réalisation de la toile, finalement, c'est assez esthétique. En fait, la chair révélée sous la peau est comme un fruit, une couleur de pastèque. Les pieds qui sont dépecés deviennent des espèces de griffes. Donc, il y a un côté animal qui ressort. Et le visage de la personne n'est pas du tout souffrant, en fait. Il est comme détaché un peu de la scène de vie.
Oui.
Il y a toujours cette espèce d'antagonisme entre ce qui est décrit dans l'action et l'expression des personnages qui est comme s'ils rêvaient un peu, en fait. Ouais. C'est un peu comme ça.
Et alors, justement, Henri Lambert, sur cette toile qui est exposée là-bas, il souligne, partant de l'individualité, Anne van der Linden règle ses comptes avec une société qui, pour notre malheur, prétend gérer notre bonheur.
Oui, voilà. Oui, il y a un côté, oui,
c'est
une très forte pression sur les femmes particulièrement,
oui.
Et donc c'était une façon d'en parler. Hein. Bon, cette toile, c'est drôle parce qu'elle a été acquise maintenant par le Musée du Vivant. C'est un musée de l'écologie. Et
oui.
Ils ont intégré cette toile dans une exposition en ligne sur humain-animal. Mmh. Et donc, comme si, en fait, ce geste de dépeçage révélait, en fait, la nature animale de nous tous.
Oui.
Et donc, moi, j'ai été casée dans la rubrique grotesque. Voilà, les grotesques et les...
Oui.
Vous voyez, ce genre de représentation, je crois, de la Renaissance. En
oui,
fait,
oui,
tout,
oui, oui.
Qui sont, en fait, une expression extrêmement outrancière et faite finalement pour faire frissonner finalement dans un sens et réfléchir par la suite, on espère quoi, mais voilà.
Alors dedans, au-delà, alors ce thème là pour toi, tu abordes donc tu dis justement que entre les personnes, alors tu parles des jalousies, des histoires de bonnes femmes, la procréation, les rapports de pouvoir, et ça, je voulais insister là-dessus, ce que tu essaies de montrer dans ton travail, c'est l'envers du décor. Hein, puisque c'est ça, sous les apparences, enfin, c'est toujours le monde des apparences,
oui.
Dans lequel on est de plus en plus. Enfin, je trouve, faut toujours le souci du paraître. Hein. Mmh. Et toi... ton travail, Henri Lambert en parle, et j'ai vu tes toiles, c'est vraiment l'envers du décor, aller voir derrière ce qui se passe. Alors, là aussi, comment on aborde la sexualité, la violence, comment on aborde la violence et les pulsions primaires. Parce que dans le petit film que j'ai vu, où on voit les deux enfants qui vont à un moment... dévorer leur mère,
oui.
La découper en morceaux et la manger,
oui.
Hein,
oui.
Sur ce thème.
C'était parti d'un poème d'Alfred de Musset qui s'appelle Le Pélican.
Ah, c'est ça, on entend.
Voilà, c'est ça.
C'est d'Alfred de Musset.
Oui, l'animal n'a plus rien à donner à ses enfants, alors il se donne lui-même à dévorer. Et en fait, quand on regarde un peu les situations de famille, finalement, c'est dans l'ordre des choses.
Ah,
hein, les enfants dévorent les parents, etc.
Ça.
Et donc là, c'est vraiment, c'est pris au pied de la lettre. Et les deux petits-enfants qui sont en fait, nous, déguisés en bambins, finissent par dévorer leur mère. Et on les voit... ronger leur nonos. C'est assez rigolo.
En fait. Oui, il y a ça dedans, et puis le fait de s'aimer, enfin, que de découvrir qu'un des enfants, si tu m'aimes pas, à la mère, oui. Et puis la mère, qui est quand même là, tu la montres aussi, qui fait un peu autre chose. Enfin, il me semble qu'elle, elle est contrainte et forcée. Presque, elle aurait envie de faire autre chose que d'être avec ses enfants, là.
Oui,
ça
voilà,
l'emmerde.
Au-delà des rôles.
Oui, des rôles.
Oui, c'est ça, oui. Hein, il y a des relations, en fait, d'intérêt très forts qui sont de l'ordre de la pulsion. Oui. On a faim, on a besoin d'assouvir ses besoins. Et donc là, il n'y a plus de mère, il n'y a plus d'enfant, il n'y a plus des choses comme ça, oui.
Et alors, dedans, aussi bien là, je pense qu'à travers de tes toiles, c'est aussi peut-être de dénoncer l'hypocrisie, le mensonge de la société dans son ensemble, enfin sur ces thèmes-là qui sont très forts, qui sont montrés, c'est tout le contraire par la propagande, là encore aussi ce qu'on peut trouver dans tous ces magazines, hein, de soit les magazines parents-enfants, soit les magazines de mode, qui donc racontent tout un tas d'histoires et masquent justement la vérité des rapports et des échanges et des relations entre les personnes.
Oui. On est très contraint par les codes de communication, ça c'est sûr. Mais bon, moi c'est vraiment loin d'un discours moral, si tu veux.
En
fait, c'est comme un rébus, chacun peut voir ce qu'il veut. C'est vrai que je mets tout sur la table.
Oui.
Après, on recompose comme on veut. Et c'est vrai que parfois, je parle avec certaines personnes de mes toiles, ils ne voient pas du tout la même chose que moi. Ils privilégient un détail, une certaine forme de vision. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Quoi. C'est assez souple au niveau de l'interprétation. Voilà, c'est pas on commence et puis on finit, et puis happy end ou bad end. Enfin, non, c'est une proposition en vrac. Enfin, bon, avec. Je mets en jeu des choses, hein, des forces, etc. Les pulsions, comme tu dis, mêlées aux contingences du réel, le rêve, etc. Et tout ça donne une sorte de sensation, d'impression forte. Très forte, même parfois, ça repousse les gens, ça fait comme un espèce de rideau de flamme, et une fois que c'est passé, on se rend compte qu'il y a aussi une forme de poésie, mais après, il faut s'habituer au truc, c'est sûr.
Mais
par contre, c'est vrai que dévoiler le réel, etc., je pense que c'est la fonction de tout artiste. On est là, comme dit Bergson, on est là pour regarder les choses d'une manière sensible, alors que les personnes regardent plutôt les choses d'une manière liée à la nécessité. On aborde le réel parce qu'on a besoin de choses, on a besoin de se nourrir, on a besoin de survivre. Et les artistes, c'est plutôt ça, c'est plutôt voir l'envers du décor, voir les choses dans leur subtilité, etc. Et après, les retranscrire le mieux possible, ce qui n'est pas évident du tout.
Oui, et puis de laisser, enfin, puisque tu sais, aussi quelquefois, mais c'est important, comme ce que disait Jean Dubuffet, c'est le regardeur qui fait le tableau. Alors c'est pas vraiment vrai puisque c'est quand même toi. On sait bien.
Oui.
Parce que sans ça, si t'étais pas là, il y aurait rien à voir.
Mais ce
que tu évoquais, l'interprétation, c'est-à-dire que chacun, par rapport à ses propres intérieurs, lui-même, eh bien, comment il le perçoit. Alors là aussi, les perceptions sont assez différentes comme on l'évoque pour Clovis Trouille, les comparaisons que l'on peut faire avec ton travail, mais là aussi c'est quelque chose. Enfin moi je le ressens comme ça, qui montre l'envers du décor, mais là aussi dans des propositions qui, sous le fait d'une certaine peut-être, alors il y a les couleurs hein, très vives et tout ça.
Oui.
Au-delà de ça. Eh bien, une fois qu'on l'a vu, là, je pense que il y a une douceur. Moi, je dirais que c'est pour ça s'il y a un retournement.
Oui.
Et de vouloir, et quelquefois qu'il n'est pas compris comme ça. C'est-à-dire.
Oui, moi, je suis pas contre cette idée-là.
Oui.
C'est-à-dire que je suis contente de t'entendre dire, mais moi, je suis plongée un peu dans mon monde. Donc
oui.
Mais c'est vrai que, par exemple, les représentations sont très rondes, les corps sont très pleins, il n'y a jamais d'écharnement, de souffrance visible. En fait, tout est fait comme si c'était un jeu dionysiaque, un peu, finalement. Et la souffrance est presque équivalente dans sa charge que le plaisir, enfin voilà. Donc par exemple, je peux montrer une scène d'éventration, mais il y aura jamais une expression de catastrophe ou quoi. C'est tout est comme un jeu en fait. Alors, voilà.
Un petit peu aussi ce qu'on en parlait, c'est le retournement, ce qu'on veut pas nous montrer ou nous montrer. comme je parlais tout à l'heure d'une illusion, d'une société dans laquelle on baignerait relativement douce, avec la publicité, avec la communication partout, avec des rapports policés, c'est le moment de le dire, entre les individus, alors que sous-jacent, il y a une violence extrême, enfin oui. Moi il me semble,
oui.
Ce qui est peut-être intéressant, c'est de travailler là-dessus, justement, sur ce retournement,
oui.
Pour montrer non seulement derrière que la violence elle est là,
oui.
et que autrement quand on retourne l'envers du décor et en apparence comme ça, mais il y a une très grande tendresse, il me semble.
Oui.
Ouais, là.
Ah oui, hein? Non, je suis pas particulièrement violente personnellement, même si je fais peur à certaines personnes qui ne me connaissent pas. Mais dans l'ensemble, je suis une personne assez tranquille.
Oui.
Mais et par contre, il n'y a pas de concept là derrière en ce qui me concerne. Encore une fois, je peins comme ça parce que je le ressens.
Oui.
Je ressens la réalité comme ça. Voilà. Voilà.
Ouais.
Et au niveau du rendu aussi, c'est une peinture assez brute, assez en matière, assez rêche comme ça. Et donc par rapport à l'image, comme tu dis, polissée de la télé, des photos, etc., tout ce qui sert de support de communication maintenant majoritairement, ça fait un espèce d'effet déstabilisant aussi.
C'est ça.
Et beaucoup de gens sont assez rébarbatifs à la peinture épaisse.
Oui, mais là on pourrait dire sur ce thème-là, aider à voir, alors qu'on ne voit plus, quoi, c'est ça.
Oui.
D'essayer, comme tu dis, le travail des artistes, de dire, d'essayer les yeux, puisqu'on est habitué à nous montrer, encore une fois, toutes ces images, surabondance d'images, de publicité.
Et ceci dit, c'est pas gagné, c'est vrai que beaucoup...
Et l'obscénité, elle est là. Enfin, moi, il me semble.
Oui.
L'obscénité, c'est ça.
Oui,
c'est le renversement. Tout ce qui est présenté comme quelque chose de doux, des formes anodines ou d'images presque pieuses, on est dans l'obscénité absolue,
oui.
Il me semble.
Oui, oui.
Voilà,
oui, oui.
On le ressent.
Oui, oui. Mais c'est vrai que l'obscénité, moi, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est un matériau que j'utilise dans mes images. C'est-à-dire vraiment l'ouverture béante des sexes, etc. Et dans un espèce une volonté de faire casser en fait les résistances ou un truc comme ça. Voilà. Et en fait, j'ai souvent en tête cette histoire de Déméter. Enfin, ça fait un peu prétentieux de parler de tout ça, mais Déméter qui était triste parce qu'elle avait perdu sa fille, qui était partie aux enfers, je sais pas quoi, et du coup, comme c'était la déesse des moissons, etc., les moissons ne se faisaient plus, la terre était à l'abandon, et elle rencontre sur son chemin une vieille qui lui montre son sexe.
Mmh.
Voilà. Et du coup, elle a ri, et du coup, la moisson est revenue sur la terre a recommencé à tourner. Voilà, c'était un peu dans cet esprit-là que j'aimerais bien travailler, oui.
Donc, alors, si tu veux, bon, peut-être on va aborder, parce que je voyais aussi le tableau, ce tableau dont parlait Lambert, hein, et qui était exposé, le gros et les maigres,
oui.
et là de changer un peu les codes. Les codes de la domination, de la sexualité, et d'inverser par rapport à dans ce tableau. Alors si tu veux, il y a un mec très gros et puis il y a une femme qui le regarde. Là aussi, c'est peut-être la différence entre il est observé, scruté, regardé,
oui.
Un peu.
Il est aussi un peu comme le nabab en fait, le nabab dorloté et il est entouré de femmes qui sont hyper maigres. Effectivement, référence à ce tabou maximum qui demande aux femmes finalement de disparaître.
Ah oui,
c'est bon.
Tu dis ça, c'est vrai. Je pense que les régimes.
Oui.
La maigreur,
oui.
Absolue, enfin, puisqu'il y a eu des histoires, tu sais, enfin, bon, on a parlé de mannequins, hein, qui étaient anorexiques, absolument, et qui en sont mortes, jusque-là, ça allait jusque-là.
Oui, oui, mais c'est quelque chose qui est très, très ancré dans la tête des femmes, un tabou, une oppression tous les jours. Il n'y a pas une femme qui parlera pas de régime. Enfin, je connais pas. Moi aussi. Enfin, bon, c'est terrifiant.
Oui, pour montrer que la oui. force considérable de la société, enfin,
sur l'image qu'on veut nous imposer. Et par rapport à ça, les hommes sont moins embêtés. C'est vrai qu'on peut souvent on voit des gars avec un gros bedon dire à leur femme de faire un régime. Je trouve ça un peu gonflé, mais bon. Voilà.
Oui, c'est complètement différent, ça. Voilà. Hein,
c'est
une
histoire toute simple que je fais. Ouais. Moi, c'est un peu ça.
Oui, mais en même temps, qui admise, qui va de soi.
Oui.
Alors, sans vraiment de révolte par rapport à ça.
Oui, c'est une
acceptation.
Comme beaucoup.
Qui ne se voit pas ou qui ne se voit moins. Et donc l'intérêt, c'est ça, c'est que bon par ce tableau, eh bien de ce retournement, hein, de voir d'inverser les codes. Et puis là, c'est comment alors tu l'as fait particulièrement, comme tu me dis, parce que on évoque le rôle de la corne d'abondance. Hein. Parce que c'était le propos. Alors je dis ça quand même, puisque tu sais que l'émission de commentaires de l'actualité, dans le Canard enchaîné de ce jour, Jean-Luc Porquet, que l'on connaît, a fait un article sur la corne d'abondance.
Oui.
Parce que la corne d'abondance, c'est un petit peu ce qui est annoncé avec la propagande moderne, c'est-à-dire que la technologie, les nouvelles technologies permettront de toujours trouver une solution à tous les problèmes techniques et tous les problèmes de société, et qu'un jour, c'est toujours un petit peu demain ou après-demain, hein, on rasera gratis, mais là, ça sera la corne d'abondance qui tombera sur nous tous, hein, ça sera formidable. Alors donc là, c'est pour ça, dedans, tu vois, à cette époque-là, on retrouve ce thème, enfin, pour Lambert, de la corne d'abondance dans ce tableau, pour l'homme dedans.
Oui.
Oui.
Oui, je sais pas trop.
Non, mais je pense qu'il veut le dire. Il veut dire ça par rapport à lui, ce qu'il peut apporter, et que il suscite l'intérêt des autres personnages par rapport à lui-même, qui le scrute par tous les bouts.
Oui, c'est ça. Oui, lui, c'est lui qui a bénéficié des cadeaux de la nature. Oui. Pourquoi pas, oui.
Alors, écoute, Anne, peut-être on va faire une petite, une partie musicale, et puis ça permettra aux auditeurs de nous appeler. Hein, je rappelle le numéro du studio, 01 43 71 89 40. Alors on le rappelle, eh bien, l'exposition qui va avoir lieu, qui commence aujourd'hui jusqu'au 22 juin, et qui s'appelle Jean Banlaire, et qui se trouve 111 rue Molière à Ivry-sur-Seine. Voilà, et on se retrouve après, puis on continuera. Peut-être qu'on abordera enfin les publications, l'écrit, et puis aussi les illustrations de certains ouvrages, comment tu as commencé, et aussi certains titres qui, en eux-mêmes, puisque tu dis quelquefois, tu as évoqué tout à l'heure le fait de Jean Banlaire, que ça vient comme ça, ben quelquefois ça vient comme ça, un titre, mais ça peut être intéressant peut-être de développer. Voilà, alors à tout à l'heure, donc... l'émission Chronique Hebdo continue jusqu'à midi, Radio Libertaire, et on se retrouve dans quelques instants. Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo qui continue jusqu'à midi en compagnie de Daan van der Linden, pour les auditeurs là qui seraient à l'écoute juste maintenant. Exposition Jean Banlaire, 111 rue Molière à Ivry-sur-Seine, qui démarre aujourd'hui jeudi 12 juin jusqu'au dimanche 22 juin. Alors, Daan van der Linden, un auditeur a évoqué quand il y a eu l'exposition à l'Isle-Adam autour de Clovis Trouille et puis justement des enfants terribles, oui. Si l'on peut dire, de Clovis Trouille. Et eh bien, ce qui m'a été dit par cet auditeur, que la revue, alors il m'a dit Pantouze. C'est drôle, Pantouze apparemment, mais Pantouze, pourquoi pas.
Pantouze,
oui, oui, le bruit des pantouzes est à redouter plus que le bruit des bottes. Et donc, il y avait eu un numéro autour des tableaux de Clovis Trouille et aussi peut-être des tableaux des enfants terribles de Clovis Trouille.
J'avais pas vu.
Alors, oui, il m'a dit ça et j'ai dit c'est une revue érotique, mais il y a eu aussi lui, hein, une période parce que Daniel Filipacchi, tu le sais bien, est un collectionneur, ouais. En particulier au Calcutta. Enfin bon, oui. Il y a eu la comédie musicale, hein, oui. C'est ça. Et collectionneur de Clovis Trouille, hein, oui. Daniel Filipacchi. Alors là, pour cette revue, donc un numéro spécial à l'époque de photos sur cette exposition. Alors, je te dis aussi. Parce que, pour le signaler, l'aspect, alors là on va le dire, érotique et pornographique,
oui.
De ton travail.
Oui, qui s'est un peu atténué avec
oui.
le temps,
oui.
Peut-être parce que je prends de l'âge, j'en sais rien.
Oui.
Enfin, c'est toujours assez violent, hein, aussi. Mais c'est vrai que là, à une époque, par exemple, je peignais beaucoup de phallus immenses, comme des intestins, etc. Ça m'a passé, c'était ma période. Mmh. Voilà, chacun ses périodes. Hein. Picasso a eu sa période bleue, moi j'ai oui. eu ma période bite. Enfin bon, voilà.
Okay.
mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose que je mets pas de côté. Mais j'utilise ça comme, enfin, je peins les organes génitaux comme je peindrais
oui.
d'autres parties du corps.
C'est
enfin
ça.
Disons, je mets pas ça de côté.
Voilà.
Voilà.
Oui, ben là, c'est.
J'ai pas de problème avec, avec les fonctions du corps, en fait. Voilà. Si on extrait ça de la pudeur ou de la morale, pourquoi ne pas représenter le corps dans toutes ses fonctions et notamment une fonction aussi importante que celle de la sexualité.
Oui,
alors. Ça permet quand même d'être là.
justement, par rapport. C'est, ouais. C'est aussi ça l'importance que ça peut avoir. C'est aussi un retournement de ce que l'on montre et de ce que l'on montre pas dans la société.
Oui, sauf que de la sexualité, on en montre beaucoup. Bah, tu parlais de Penthouse, il y en a dans tous les kiosques,
oui.
etc. Mais c'est une sexualité un peu lissée, très
oui.
formatée.
Oui, c'est
voilà.
ça.
Moi,
et marchande.
Et marchande.
Et surtout
ouais.
marchande. Hein.
Moi, j'aimerais bien que la mienne soit marchande, mais pas trop.
Oui, mais marchande, c'est pas la même chose, parce que là, c'est marchand. Pour que ça rapporte au marchand
oui.
et que là c'est la différence, c'est que le peintre il est un peu récompensé de ce qu'il fait de
oui.
son travail
oui.
on n'est pas sur cet aspect-là, alors comme on dit les apparences de société la société capitaliste qui ouvrirait des libertés, ce sont des libertés marchandes, puisque encore une fois l'érotisme ou la pornographie on essaie d'en faire le fric maximum,
oui.
puisque là, en particulier à l'issue, tu te souviens, puisqu'on parlait de ballon tout à l'heure, on va en parler un peu, du football, quand ça a eu lieu en Allemagne, eh bien il y avait les fameux maisons ouvertes, érotiques, et qui étaient que les travailleurs du sexe, en Allemagne, sont des travailleurs comme les autres. Et puis, dans cette période-là, des centaines de milliers de femmes, on disait pas d'hommes, je ne sais pas, il y en avait sûrement, est disponible. Et là, on parle pour le Brésil, ça irait bien au-delà, puisqu'on parle des enfants qui vont être proposés, justement, peut-être aux gens qui fréquenteront la Coupe du Monde de football.
Oui,
et là encore.
C'est pas un fait nouveau, mais enfin,
non,
ça va être exacerbé.
Que, ouais. Et encore une fois, tarifé en passant par l'histoire du pognon. Donc, on peut dire que l'érotisme, et la pornographie libre, choisie, Hein, c'est ça, poétisé ou naturel. Oui. C'est pas celle-là.
Non, c'est pas celle-là. Non.
Et donc, donc, et c'est pour ça que peut-être que par, enfin, je ressens ton travail ou ce que tu as voulu faire. Alors là, sur les quelques publications que tu as faites, j'ai vu un petit peu. Donc, tout à l'heure des titres. Bête à bon Dieu. Là, c'est autre chose. Le poil, hein, cupu.
Oui.
Tu as fait, toi, pour te dire pour le.
Ton cupu, c'était une revue. Oui. Une revue, un collectif, en fait.
Et justement, édition Alman, oui, c'est ça, 2003, oui. Hein, je voyais ça. Je veux être ton singe.
Oui.
Hein, là, c'est pour une édition 99.
C'était des éditions en sérigraphie à l'époque, parce que j'ai beaucoup travaillé avec tous ces micro-éditeurs, auto-éditeurs, donc en sérigraphie ou même en photocopie.
Oui.
Donc, ils faisaient des choses à tirage très limité qui leur permettaient de faire ça à la maison, de pas avoir. D'un éditeur.
C'est ça que tu as insisté là-dessus. D'insister là-dessus, justement, pour court-circuiter.
C'est un mouvement. Hein, plus important que. Médiatisé, etc.
Oui, oui.
Mais c'est vraiment un mouvement culturel en soi, quoi, qui mériterait plus d'attention, je trouve.
Oui, bah ça.
C'est vraiment de l'expression libre. Il n'y a pas de contraintes. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, du moment qu'on paye soi-même. C'est ça.
Oui, oui. C'est ça, exactement. Mais ça permet, justement, de subvertir tous les circuits.
Oui.
Tous les circuits marchands et d'être c'est ça, chacun
c'est vraiment intéressant
participant à cela et en ayant ses intentions
parmi ceux-là, il y en a qui continuent depuis les années 80-90 comme Bête à bon Dieu, ça a été édité par Stéphane Blanquet, une dead artist, donc un éditeur underground qui est vraiment a une production une très belle production d'ouvrages. Il y a aussi Le Dernier Cri à Marseille, enfin il y a des éditeurs vraiment courageux qui ont continué depuis des années et des années en galérant, etc., à produire des choses merveilleuses, quoi.
Et là aussi, alors par rapport à ça, c'est quelquefois des tirages où c'est on peut limiter, en fait.
Ah,
y a
c'est
pas
généralement
beaucoup.
Des tirages très limités.
Hein, c'est ça.
Ah, quand c'est en sérigraphie, de toute façon, ça dépasse pas. Enfin, si c'est 500 exemplaires, c'est le bout du monde. En offset, c'est un peu plus, mais ça dépasse pas les 1000 exemplaires. C'est très confidentiel dans la distribution aussi. Mais c'est là, c'est virulent, ça n'arrête pas. Donc c'est très intéressant.
Et alors actuellement, donc pour publication que tu fais ou illustration, ce que tu fais, ton travail récent, il y a.
Alors récemment, j'ai sorti un petit livre qui s'appelle Instabilité hormonale. C'est une petite histoire dessinée.
Instabilité hormonale.
C'est une femme qui a une crise de nerfs et qui casse tout, qui crée un espèce de qui détruit toute la ville. Et puis finalement, elle se rend compte que c'était juste une saute d'humeur. Et donc, elle répare tout en cousant les morceaux, etc. Enfin, une histoire un peu débile comme ça. Et puis, j'ai travaillé avec Coste sur un de ses livres que j'ai illustré. Jean-Louis Coste, qui est un romancier, performeur. Et sur un ouvrage qui s'appelle Grand-père. Et là, j'ai un projet avec Stéphane Blanquet, les éditions UDA, pour un nouveau fascicule de mes mises à jour de mes peintures récentes, etc., qui sortira à la rentrée en septembre.
Oui. Alors là, j'avais vu ce matin, j'ai le Monde sous les yeux. Il y avait un entretien avec un film là dont j'ai parlé, L'adieu au langage de Jean-Luc Godard. Qui est utilisé avec les lunettes, hein, c'est pas la 3D, 4D, je ne sais pas. Et il y a eu des entretiens avec lui autour de ce film, et puis l'entretien dans Le Monde là, et je trouvais qu'il y a une chose qui était assez intéressante, ce qu'il disait, une anecdote sur Cézanne. Alors il peint pour la 100e fois la montagne Sainte-Victoire. Quelqu'un passe et lui dit « Oh, elle est belle, votre montagne !» Et Cézanne répond « Foutez-moi le camp, je ne peins pas une montagne, je peins un tableau. »
Oui.
Et je trouve que c'est... Hein, c'est...
Oui.
Et donc, ça, on peut le déplacer sur autre chose. Hein.
Pour lui, c'était pas le sujet peint qui est important, c'était la structure de la toile en soi, les
tableau.
Masses, les formes, etc. Quoi. Mais enfin, il ne faut pas trop me parler de Godard aujourd'hui, parce que il a eu quelques réflexions qui m'ont plu.
Ah si, vas-y. Justement.
Ce serait bien que Marine Le Pen passe aux prochaines élections, parce que ça ferait... Ça ferait un élect... Je sais pas comment il a dit. Ça bougerait les choses. choses, ça ferait bouger les choses.
Ah oui, il voilà. Y a des manières de les faire bouger autrement.
Oui, c'est
autrement.
Un jeu très dangereux.
Ah oui, non, mais ça,
c'est... C'est un jeu très dangereux et j'étais furieuse de lire
ça. Et c'était ça, ouais. Ça qui... ouais. On lui a fait dire ou il a dit ça?
Il a dit lui-même, non. Et donc, c'est tout de suite repris par des gens, bah, comme
ah
c'est
ouais.
Godard, comme c'est une référence culturelle, les gens l'admirent. Alors du coup, les gens disent, ah oui, mais pourquoi pas, c'est vrai.
Non, c'est pas... Oui, mais donc, essayez de voir aussi comment il a dit ça, parce qu'on lui fait, on lui en veut un peu aussi, tu sais, pour... Alors, il y a des choses comme ça. Oui, il faudrait voir ça, parce que quelquefois, on essaie de démolir. Ou alors, tu vois, de un jeu, parce que peut-être qu'un journaleux l'avait énervé. Enfin, moi, je ne sais pas.
Hein,
et qu'il a été dans ce truc-là, parce que souvenons-nous, il s'était fait entarter par Noël Godin.
Oui.
Tu te souviens, hein?
Oui.
Et le seul à dire, si Noël Godin a des ennuis, si on le vire du festival, eh ben, moi, je pars avec.
D'accord.
Alors, donc, il y a eu ça, un petit peu des éléments. Oui. Alors, sur l'autre aspect, s'il y a ça, ben, on regardera, parce qu'en ce moment, évidemment, c'est assez effrayant, tout ce qui peut être dit, et aussi, tu vois, peut-être rapporté, mais peut-être, hein, oui. Donc, de, non, une chose qu'il mettait, parce que j'ai trouvé que son film, bon, c'était une façon aussi d'essayer de dynamiter ce festival de Cannes, en fait, ce que c'est que tout ça, ce qui est arrivé, parce qu'il dit, il a eu aussi, il me semble, c'est intéressant, il dit, il y a, c'est des films, mais il n'y a plus de cinéma. Hein, donc, ça aussi. Et non, pour en revenir, ça te concerne plus. Alors, il dit, il n'y a pas de, dans ce film, il n'y a pas de nudité dans la nature. L'animal n'est pas nu parce qu'il est nu. Et donc, il voulait montrer que comme ça, que c'est, et que c'est une perception. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
Oui.
Et ça, je trouve
ça
que
ça. Ça reprend dans le contexte d'une société.
Oui, oui voilà.
Oui. Alors, moi, je représente pas non plus la nudité naturelle, en fait. C'est complètement sophistiqué, ce que je représente. C'est le mélange de la révélation de la nudité dans justement, au milieu de ces carcans, au milieu de ces pressions, etc. Et c'est ce jeu, cette tension qui est créée entre le, enfin, entre notre être animal et puis le jeu social. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est sur cet aspect-là. Mais aussi, alors, là aussi, puisque tout à l'heure on évoquait érotisme et pornographie, de la manière dont c'est montré, il y a quand même enfin, je veux dire, surtout que c'est important, comme pour Clovis Trouille, là on en parlait tout à l'heure par rapport au thème, avec les décalages qu'il a fait ou toi que tu fais justement par rapport à tes toiles, dans tes toiles ça trouble je pense les personnes, parce que c'est en bougeant un peu le réel ou en mettant des choses qu'on ne voit jamais ensemble, et là ça fait quelque chose d'assez subversif.
Oui, voilà,
me semble
déstabilisant. Ouais.
Eh, oui,
il y a un
effet
retard aussi. Oui. Les toiles un peu, ça, elles font leur chemin et les gens finissent par admettre un peu au fur et à mesure du temps, quoi, même si c'est assez rébarbatif à regarder, mais ça prend sa place dans les esprits, et puis voilà, bon, c'est un peu le boulot qu'on doit faire. Hein, ouais.
Et alors,
par rapport à Clovis Trouille, effectivement, au niveau formel, c'est rien à voir.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que quand Henri Lambert parle d'un Clovis Trouille, comment il disait ça, dionysiaque, ou enfin quelque chose sur l'érotisme soft, finalement. En fait, moi je vois pas ça comme ça. Clovis Trouille, pour moi, c'est assez dur dans la représentation, quoi.
Il y a
tout le temps la mort en filigrane.
Oui.
Voilà, bon. Après, il dit ce qu'il veut, mais moi, j'avais pas cette vision-là. Ouais.
Oui, ben c'est ça, c'est l'intérêt, justement, de voir que chacun d'entre nous, sa sensibilité, sa perception est quelquefois différente et permet justement d'avoir une discussion et puis aussi d'avoir une appréciation très différente. Alors, ce que je voulais dire aussi, tu vois, là, c'est difficile, je peux pas. Je vais mettre tout à l'heure, c'est une personne qui veut venir sûrement l'émission suivante. Et donc, je vais aller l'ouvrir dans quelques instants. Là aussi, je disais, pour les formats, parce que tu as des toiles de très grands formats.
Oui.
Hein,
oui,
c'est ça.
J'ai des grands formats.
Alors,
assez grands formats.
Et tu as une volonté pour ça. Alors, aussi, je disais, le grand format permet peut-être aussi la force que ça peut avoir.
Oui, et plus et la couleur au niveau et du la... geste, etc.
Ah oui,
ouais,
ah
c'est
oui,
moins
oui.
contraignant. Mais maintenant, je me suis mis aussi à des tout petits.
Ah oui.
Et c'est une technique à laquelle il faut se plier parce que c'est, ça change un peu. Oui, c'est, oui. Ça change un peu l'approche, mais faut manier les pinceaux d'une manière différente. C'est pas évident de faire des tout petits formats finalement. Et je m'y suis un peu habituée là, j'ai un peu changé. Ouais. Mais à une époque, je faisais vraiment des formats, toujours les mêmes formats, 50 figures, je sais pas, c'est 92 par 100, je sais plus combien, et c'était devenu un peu la routine. J'ai mes petites manières à moi de casser la routine. Et j'ai même fait récemment deux formats 2 mètres par 2 mètres, on m'avait donné des châssis, et là aussi c'est intéressant, on a vraiment l'impression de plonger dans la toile, et c'est vraiment un travail intéressant. Donc il faut changer les supports, changer les formats... Changer. Avant, je faisais de la peinture à l'huile. Maintenant, je me suis mise à l'acrylique. Donc, ça sèche plus vite. Ça permet plus de rapidité, peut-être de spontanéité. On peut se tromper, recommencer. Voilà. Et donc, voilà. C'est ma manière à moi de faire mes petites révolutions.
Oui.
Au quotidien.
Et alors, aussi, il y aura un autre artiste avec toi, Jean Attali.
Oui.
Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport à tes tableaux. Enfin, déjà, ça fait combien d'années que tu peins?
Dans cette forme-là, j'ai commencé à mettre ça en forme au début des années 90. Ça a pris petit à petit, parce que j'ai eu une période abstraite avant.
Oui.
Donc, petit à petit, j'ai remis de la figure et ça s'est élaboré, comme ça.
Alors, ce que je trouve aussi, par rapport à tes toiles, c'est que je trouve qu'il y a une continuité, une unité. C'est-à-dire dans la forme.
Oui.
Alors que pour peintre, quelquefois, on dit, tiens, ce tableau, c'est lui qui l'a fait, je sais pas. Et que je trouve que tu as, alors ce qu'on peut dire, je sais pas, un style, non, mais une façon de peindre en continu et qui était extrêmement personnel qu'on reconnaît
puis j'ai pas
immédiatement.
Il y a des peintres qui travaillent par période.
Oui, c'est ça.
C'est pas mon cas.
C'est
enfin, ça.
Ça
évolue, mais très doucement, en fait.
Très doucement, ça.
Et sinon, c'est toujours ces personnages, etc. Ils se trimballent depuis des années dans l'étoile.
Oui,
maintenant, la présentation est peut-être un peu différente, la technique aussi, mais c'est... Oui, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas un jour où je vais dire, je commence à peindre des voitures ou des paysages, etc.
C'est ça, tu restes...
Je rumine mes histoires sombres.
Oui. Et justement, ça permet de marquer, je trouve... on parlait tout à l'heure pour Cézanne, pour la reproduction de la montagne, plusieurs fois qu'il a fait. Là, autrement, je dirais que pour toi, il y a une forme d'unité, de continuité, et que t'es tout de suite une perception qui t'est très personnelle.
Oui.
Enfin, je trouve la façon dont je ressens les tableaux, qui est quelque chose qui est très fort, et moi je le ressens comme ça, et qui apparaît sur ton travail, qui apparaît dans ton travail.
Oui.
Voilà.
C'est ce qui est demandé finalement. Non
oui, mais c'est pas toujours. C'est ce qui est demandé, mais le résultat n'est pas toujours là.
Ah,
hein, c'est ça.
Je vais pas cracher sur les collègues.
Non, mais sans être féroce ou autrement avec eux, mais quelquefois de le remarquer que c'est plus fuyant ou que c'est moins fort.
C'est-à-dire que moi je suis pas très distancée en fait, aussi bien dans la matière, tout ça, je suis vraiment investie, j'ai pas trop de recul. Et alors qu'il y a des artistes qui sont plus conceptuels, donc ils élaborent dans leur pensée une certaine forme qu'ils vont élaborer ensuite très posément et plus froidement, quoi. Mais ça veut pas dire que le propos est moins intéressant, c'est une autre approche, hein, c'est pas... Mais j'aime bien aussi que la trace du pinceau, c'est presque la suite de la circulation du sang ou quoi, c'est comme un élément organique, quoi. Voilà, c'est aussi vivant, quoi. C'est par moments, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est des extensions de mon corps.
Alors Anne van der Linden, donc l'émission, on a quelques minutes. Alors rappelez que ce sera le vernissage, c'est aujourd'hui, cet après-midi, l'exposition du 12 juin, donc aujourd'hui, jusqu'au 22 juin.
Vernissage à 18h30. Hein.
Vernissage exactement à 18h30. Alors, il y aura aussi dedans deux projections, il y a deux films, on en a parlé, court-métrage, Citerne et Le Repassage.
Oui.
Moi, je vous conseille Le Repassage, de voir un peu ce que c'est, puisque dedans, on apprendra que tu as ton diplôme de repasseuse.
Oui, c'est ça.
C'est
ouais.
pas rien. Hein.
C'est ça. Mais je conseille à personne d'avoir une patronne comme celle à qui j'ai affaire. Bon, enfin, je sais pas si je dois raconter l'histoire.
Oui.
Oui, c'est une intérimaire repasseuse qui a affaire à une patronne qui est pas contente de son travail et qui, pour lui apprendre à repasser, lui repasse le corps, carrément.
Oui.
Et pour finalement la remettre au travail en lui disant de travailler mieux.
Oui, alors il y a ça, donc vous verrez là, les dures conditions du travail domestique.
Oui,
exactement. Alors,
Et il y aura aussi une intervention musicale de Jasmine Vegas à l'accordéon à partir de 20h.
Ah, c'est pour ça. Voilà. À partir de 20h.
Oui.
Donc, tu répètes, Jasmine?
Jasmine Vegas, qui est une chanteuse, musicienne et accordéoniste, et donc qui nous fera le plaisir de venir jouer pour cette occasion-là.
Voilà, alors je rappelle alors l'adresse, 111 rue Molière, à Ivry-sur-Seine, exposition dont le titre Jean Banlair, Anne van der Linden et l'autre artiste Jean Attali.
Voilà,
Anne, puisque tu as vu, là on est en train de faire des clignotants et de sonner, on est obligé d'arrêter l'émission, c'est midi.
Oui.
Eh bien, invité évidemment, après ce qu'on a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, aux auditeurs, eh bien d'aller voir cette exposition, en tout cas ceux qui sont sur l'Île-de-France, et puis ceux qui ne le sont pas, ben c'est une occasion de venir visiter ce beau pays d'Île-de-France.
Oui.
Voilà, hein, on veut dire.
Donc,
eh bien écoute, Anne van der Linden, je te dis à très bientôt, hein, puisque
tu étais
venue là au mois de février, hein,
oui.
Et ben peut-être une prochaine fois.
D'accord.
Et puis pour l'émission Chronique Hebdo, ben c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, et puis restez à l'antenne puisque de Rimes et de Notes, eh bien, va suivre une émission sur la chanson, comme dit notre ami Floréal, non crétinisante. À la semaine prochaine, salut.